C'est parti. Alors, évidemment, Erev Tov, les Koulam.
On voulait demander à tout le monde de se mettre en mode silence pour
Voilà,
mieux.
sauf pour poser des questions ou donner des arguments ou des choses que vous avez rajoutées. Sinon, on se met en mute. Et alors, avant de commencer le cours, comme la semaine dernière, on avait commencé le cours avec un fond sonore de Reb Shlomo, eh bien, un fond sonore pour l'autre Reb Shlomo.
אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה.
Oui, on la connaît cette vidéo. Et voilà, aujourd'hui, nous allons ouvrir notre shiur sur cette bracha extraordinaire du Rav Goren, Menachem Tzion Ubonei Yerushalayim, lorsque le Rav Goren libère le mont du Temple. Alors voilà, la semaine dernière, c'était la Hiloula de Reb Shlomo Karlibach, et donc on a essayé ensemble de relever le défi de parler de Reb Shlomo, de sa Torah, de son identité. Et donc, eh bien, j'ai posé la question aux organisateurs. J'ai demandé à Eli, dis-moi, la semaine dernière, c'était Reb Shlomo. On peut continuer et reprendre notre étude normale du lundi soir, mais juste que tu saches que demain soir, c'est la Hiloula d'un autre Reb Shlomo, de Rav Shlomo Goren. Et là, il m'a tout de suite dit, bon, bah, bien sûr qu'on va faire un cours sur le Rav Goren. Donc, Erev Tov les Koulam, et c'est parti pour notre découverte de cet homme extraordinaire. Extraordinaire, je pèse mes mots. Je pense, très honnêtement, que depuis Moshe Rabbeinu, depuis Yoshua Bin Nun, depuis Shmuel Hanavi, depuis tous les grands dirigeants.
J'entends pas le rab, là.
Vous m'entendez pas?
Moi non plus, j'entends plus.
Attends.
On t'entend pas.
Attends deux secondes.
On t'a perdu il y a 2 minutes.
Et là, tu m'entends?
Là, oui.
Ok.
Alors, on t'a perdu au moment où tu disais que tu te lançais sur un nouveau cours, sur un autre rab, Shlomo.
Ok, donc je disais. Je reprends, c'est les inconvénients du direct. Donc, je redisais la chose suivante. Là, on a dit, on est obligé de continuer sur un autre Reb Shlomo, Rav Shlomo Goren. Et je tiens à le dire, on va parler d'un personnage extraordinaire, absolument extraordinaire. Et je pèse mes mots lorsque je vous dis que depuis Moshe Rabbeinu, depuis Yoshua Bin Nun, Shmuel Hanavi, j'allais dire Rabbi Yehuda Anassi, le Rambam, eh bien, je pense qu'on n'a pas eu de rabbin, de dirigeant, de manig comme eux jusqu'au retour du Rav Goren. Qu'est-ce que je veux dire par là? Évidemment qu'on va parler de sa grandeur en Torah, bien sûr, c'est un grand de la Torah, mais c'est une chose d'avoir une vision est grande et énorme de la Torah, et c'en est une autre de savoir la traduire en termes étatiques. Le Rav Goren, plus que n'importe qui, a été le Rav, non pas seulement des idées, parce qu'à ce moment-là, je mets évidemment le Rav Kook dedans, en termes de réflexion de ce que c'est la résurrection juive, eh bien, il n'y a pas mieux que le Rav Kook. Mais en termes de concrétisation d'une Torah étatique, d'une Torah qui ramène la dimension nationale, eh bien, ça faisait, je pense, 2000 ans qu'on attendait un rabbin comme ça. Et c'est mon introduction pour entrer dans l'univers extraordinaire chez la Rav Agaon, Arav Shlomo Goren, Zatzal, Zatzukal, tout ce que vous voulez. Et donc, commençons. Allez, c'est parti. Rentrons en immersion avec l'univers, le monde, la Torah, l'identité du Rav Shlomo Goren. D'abord, il ne s'appelle pas Goren. D'abord, à la base, il s'appelle Shlomkele Gorenchik. Eh oui, le Rav Goren, à la base, il ne s'appelle pas le Rav Goren, il vient de la famille Gorenchik. Gorenchik, ça veut dire petit Goren. Il vient de Pologne, il est né là-bas. Et comment vous dire, s'il était né au 21e siècle, je peux t'assurer qu'il aurait vu 36 psychologues pour enfants et tout le monde aurait dit que cet enfant-là doit prendre de la rétaline. Ça, je peux te l'assurer. S'il avait vécu aujourd'hui, le Rav Goren aurait été sous rétaline, mais à haute dose, parce qu'il était ce qu'on peut appeler un hyperactif. Mais alors attention, hein, un hyperactif, la méadrine, hein, c'est pas le petit hyperactif. Hein. C'est le bonhomme, il tient pas en place. Il tient pas en place. Mais il tient pas en place parce qu'il a trop d'envie de connaître, de savoir, de faire. Et donc, eh ben, quand il habite à Kfar Chassidim avec ses parents vont faire partie de ceux qui vont créer le village de Kfar Chassidim, eh bien, il est quelqu'un qui, bah, il est pas le premier de sa classe, au contraire, il est dissipé, il est très souvent absent, parce qu'il aime se balader dans les décors d'Eretz Israël. C'est sa maman qui dit à son papa, je pense que pour le bien de Shlomke, il faut qu'on parte à Jérusalem. Il a besoin de se rapprocher de la Kedusha. La famille Goren, avant de décider d'aller habiter à Jérusalem, vont d'abord faire un petit tour à Jérusalem. Ils arrivent donc, petit tour comme ça à Jérusalem. Nous sommes, le Rav Goren est né en 1918, donc on est dans les années 30, peut-être là, juste avant les années 30, sous mandat britannique, ils arrivent à Jérusalem. Et là, Shlomke arrive au Kotel. Évidemment, pas le Kotel que nous on connaît aujourd'hui, pas la grande Rechava, le petit Kotel, vous savez, les images qu'on connaît. Il arrive là-bas, et là, c'est le chamboulement dans sa vie. Il pose les mains sur les murs, les pierres du Kotel, il connaît toutes les histoires qu'il y a à connaître, et à ce moment-là, il prend une décision. Il dit, en fait, c'est à moi qu'incombe maintenant la responsabilité de continuer l'histoire de ce mur-là. Et à partir de ce moment-là, il décide que toutes ses forces d'hyperactif, eh bien, il les mettra à un seul service, de continuer l'histoire de ce mur-là. C'est ce qui va amener le Rav Goren à devenir qui il est. Et donc, il change de Talmud Torah. Il était, imaginez-vous, ça paraît complètement incroyable. Alors que le Rav Goren est peut-être le Rav le plus sioniste de l'univers, il a commencé à Jérusalem au Talmud Torah de Neturei Karta. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu l'as pas vu venir celui-là. Mais bon, il décide très vite, une fois qu'il a décidé de continuer à écrire l'histoire du mur, eh bien il change et il vient au Talmud Torah de Etzraïm. Talmud Torah de Etzraïm, c'est là où il y a le chouk de Machane Yehuda aujourd'hui. Et quand on parle Talmud Torah Etzraïm, eh bien, il y a forcément un rabbin, un nom qui nous vient tout de suite à l'esprit. Et effectivement, il va devenir le premier maître de Reb Shlomo Goren. Il s'appelle Reb Aryeh Levin. Il devient un des élèves de Reb Aryeh Levin. On a beaucoup parlé de Reb Aryeh ensemble. Il devient un des élèves de Reb Aryeh Levin. En grandissant...
Tu nous as emmenés là-bas.
Non, on a été là-bas. On a été sur place, machin. On n'avait pas parlé du Reb Goren là, à ce moment-là. Mais vous comprenez dans quelle ambiance il grandit. Tout de suite... Il est repéré comme étant un ilouï, comme étant un géant, un truc de ouf. Maintenant, à chaque fois qu'on va parler de toute façon, je ne sais pas si on va continuer notre série sur Gdolé Aouma, sur les grands du peuple juif. Mais bon, si on parle des grands du peuple juif, à chaque fois, on va te dire, celui-là, quand il était petit, c'était un énorme. D'accord? Sauf que, là, en l'occurrence, il est repéré. Il est repéré par qui? Eh ben, il est repéré très rapidement par celui qui est le grand. Et oui, il est repéré très rapidement par le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kouk. Et il va devenir l'élève du Rav Kouk. Il était l'élève de Rav Zalman Meltzer. Donc il a passé chez des, il est passé chez des très très grands de la Torah, mais finalement Nafsho Kshura ben Nafsho chez la Rav Kook. Il va prendre le Rav Kook comme son maître et il va devenir son Meshamesh. Il va être tout le temps avec lui, il va l'accompagner dans tous ses déplacements officiels. Il devient le Ozer du Rav Kook. Et il racontera dans son livre Be'oz ou Be'ta'atsumot, il raconte qu'il y a une rencontre, enfin pas une rencontre, un événement qu'il vit avec le Rav Kook qui va lui faire prendre conscience véritablement de ce que c'est l'Ilmod Torah. Pour lui, jusqu'à présent, il doit avoir une vingtaine d'années à ce moment-là, pour lui, étudier la Torah, c'est étudier la Torah. Ça sert à apprendre comment accomplir la volonté du Créateur. Mais un jour, il accompagne le Rav Kook à une rencontre très importante que doit avoir le Rav avec le gouverneur britannique d'Eretz Israël, Anatsiv Briti Elyon. Et donc, cette discussion que doit avoir le Rav Kook avec le Natsiv, donc le Natsiv britannique, n'est pas une discussion en l'air. C'est une discussion extrêmement importante pour justement rappeler aux Anglais qu'ils sont censés nous aider à avoir un foyer national juif en terre de Palestine et ne pas tout le temps prendre le pas et prendre fait et cause pour les Arabes de la région. Donc c'est une rencontre extrêmement importante au niveau diplomatique, au niveau politique. Il doit y aller, mais il va être retardé. Pourquoi va-t-il être retardé? Le Rav Goren et le Rav Kook vont être assis sur un banc attendant la calèche qui doit les emmener chez le gouverneur anglais. Et arrive devant le Rav Kook, un petit enfant qui dit au Rav Kook, en yiddish, il lui dit, est-ce que tu peux m'aider? J'arrive pas à comprendre la sugya. Il est avec une gemara dans la main et il n'arrive pas à comprendre sa sugya. Et le Rav Kook s'assoit avec lui et va commencer à lui enseigner la sugya, à lui apprendre cette page de gemara. Et à un moment donné, le Rav Goren lui dit, ça y est, la calèche arrive, il faut qu'on y aille. Et le Rav Kook ne se lève pas. Et il va rater la première calèche, ne pas monter dedans, parce qu'il va d'abord finir son étude avec ce petit enfant juif. Ils vont finalement arriver en retard, d'ailleurs, à la Pgisha. Et le Rav Goren ne comprend pas pourquoi c'est tellement important d'étudier avec un petit gosse juif. Oui, c'est très important, mais bon, de là à être en retard à cette rencontre politique fondamentale avec le gouverneur anglais, au début, il pensera que ça montre que le limud Torah est plus important que tout. Jusqu'à ce qu'il ose poser la question au Rav Kook, qui lui dira, tu n'as pas compris. Ce n'est que grâce au limud que j'ai fait avec ce petit enfant. C'est-à-dire que j'ai pu, moi, me recentrer sur qui j'étais vraiment, à savoir un juif qui veut comprendre la volonté de Dieu, ce n'est que grâce à cela que je peux maintenant vraiment aller à la rencontre avec le gouverneur britannique. Car je viens au nom de 3000 ans d'histoire d'Israël. Et j'avais donc besoin de me le rappeler. Cette page de Talmud avec ce petit enfant juif m'a rappelé qui j'étais, au cas où je l'avais oublié. Et donc maintenant, fort de cette connaissance, je peux aller vers le destin politique du peuple juif. Le Rav Goren dira que cette rencontre lui a changé sa vie et sa façon de comprendre l'étude de la Torah. On étudie la Torah pourquoi? Pour une raison. Veit gadilti, comme disait le prophète Yechezkel, veit gadilti, veit kadishti, leine amim rabim. Je vais me dévoiler, me grandir et me sanctifier au nom, aux yeux des nations. Le Rav Goren va prendre ça avec lui toute sa vie. Toute sa Torah sera Veit gadilti, veit kadishti, leine amim rabim. Comment? Eh bien, tout simplement en ramenant la grandeur au peuple d'Israël. Alors, quand on a compris cela, bien les amis, j'ai envie de te dire, maintenant, le Rav Goren peut prendre une place active dans ce qui se passe en Israël. Il va recevoir la smicha la rabbanout, son ordonnance rabbinique, des mains du Rav Kook. Il est un des rares qui va recevoir la smicha la rabbanout du Rav Kook lui-même. Et lorsqu'il devient rabbin, eh bien, il va être mis devant un fait accompli. On va lui imposer, alors qu'il n'a que 30 ans, on va lui imposer de prendre sur lui un tafkid. Lui, il pensait devenir rabbin d'une communauté, d'une synagogue, je ne sais pas. On va lui imposer de devenir pastam rabbin. Mais on va faire de lui, de fait, on va dire de facto, parce que la situation l'exige, eh bien, on va lui demander, lorsqu'il a 30 ans, en 1948, de devenir le rabbin de Tzahal, le rabbin de Tzva Hagana l'Israël. Ça n'existait pas un rabbin de Tzahal, ça n'existait pas la rabbanout Tzvaït, ça n'existait pas l'aumônerie militaire en Israël. Il y avait le Hetzel, le Lechi la Hagana, il n'y avait pas de rab Tzvaï. Et là, c'est le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Isaac Levi Herzog, qui va lui ordonner de devenir le rabbin de l'armée fraîchement créée. Ok, j'ai pas le choix, très bien. Sauf que ce qu'on a oublié de dire, eh bien, c'est que avant de prendre ce tafkid-là, il fait quoi pendant le début de la guerre d'indépendance? Et il fait quoi pendant les différentes attaques qu'il y a avant la guerre d'indépendance? Pendant le réveil arabe, les pogroms, d'abord, alors en 29, il est encore tout petit, mais dans les pogroms de 1936, eh bien, il commence à prendre les armes. Il fait partie de ceux qui se battent pour protéger Jérusalem. Lorsque 1948, la guerre éclate, il est en 47, et qu'il est nommé Rav Tzvaï Arashi, eh bien, très rapidement, alors que le soir, il est sur les différents postes de surveillance avec son arme à aider à être un soldat, la journée, il s'occupe d'essayer de régler les problèmes, on va dire, juifs aux juifs, des différents soldats. Sauf que c'est là qu'arrive le combat de Jérusalem. Pendant le combat de Yerushalayim, la Maharacha de Yerushalayim, les tanks jordaniens arrivent dans tous les sens. Alors oui, vous savez qu'en 48, la moitié de la ville sera conquise par les Jordaniens. Mais le danger n'est pas sur seulement la moitié de la ville. Le danger est sur toute la ville. Car les tanks jordaniens ont fait le tour de la ville et ils veulent maintenant la prendre Mitzad Ma'arav. En fait, ils veulent la prendre par ce qui est le Kvish Mispar Echad, la route numéro 1 qui mène à l'entrée de la ville aujourd'hui quand on vient de Givat Shmuel. Eh bien, on peut prendre ce Kvish-là. Et à ce moment-là, on ne sait pas quoi faire. C'est Shabbat. Enfin, du moins, lorsque les tanks sont en train d'avancer, c'est vendredi après-midi. Mais ils ont prévu, tout simplement, Shabbat matin, de rentrer dans Jérusalem par le côté ouest. Et à ce moment-là, si le côté est déjà à eux, eh bien, s'ils arrivent à prendre le côté ouest, il n'y aura plus de Jérusalem. Terminé Jérusalem. C'est pas possible. À ce moment-là, les forces de Tzahal ne savent pas quoi faire. Ils n'ont absolument pas les moyens d'arrêter les tanks jordaniens. Pourquoi ? Eh bien parce que d'abord, ils ont des forces réduites qui sont déjà prises dans les différents combats. Et d'autre part, s'ils mettent maintenant des soldats, parce qu'on sait ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué. Il faut creuser des sillons dans les routes qui mènent à l'entrée de la ville et les miner pour que les tanks qui arrivent vont exploser et ne pourront plus passer. Sauf que si on va faire ça, pendant les journées, on va se faire bombarder par les Jordaniens. Le seul moment où on peut le faire, c'est la nuit. Et quelle nuit ? Cette nuit. Les tanks jordaniens seront à Jérusalem demain matin. Le commandant des forces de Jérusalem, David Shaltiel, vient voir le Rav Goren et lui dit, écoute, il n'y a pas 36 solutions. Les seules forces qui seront capables d'arrêter les tanks jordaniens, les seules forces qui ne sont pas encore mobilisées et sur des fronts et qui sont à Jérusalem, ce sont les Bnei Yeshivot. Ce sont les étudiants des Yeshivot du Yishuv. Mais attendez, les étudiants des Yeshivot, ils ne sont pas à l'armée, ils sont contre. Nachon. Et David Shaltiel dit au Rav Goren, mais toi, tu es un rabbin. Toi, t'es un rabbin, va leur parler. Va leur parler en tant que rabbin. Et dis-leur qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils doivent venir nous aider. Rav Goren n'a pas hésité une seconde. Il va aller voir tous les rabbanim de Mea Shearim. Toutes les yeshivot. On est vendredi soir, Ribbono Shel Olam. C'est Shabbos. Et je le dis volontairement en accent ashkenaz. Parce qu'ils sont tous ashkenaz là-bas. Ils sont tous en train de faire des tiches chassidiques. Il passe de yeshiva en yeshiva. Et il va réussir à convaincre tous les rachés yeshivot de Mea Shearim que c'est pikuach nefesh et que chayavim lechalel et shabbat et qu'il faut aller creuser les sillons et miner les différentes zones. Il va réussir à convaincre tous les rachés yeshivot et il n'y aura pas un seul barou yeshiva qui ne va pas aller participer. Ils vont creuser les sillons, ils vont miner les sillons creusés et le lendemain au petit matin, le Rav Goren va monter sur un des tatspiot à l'entrée de la ville et il va voir un spectacle extraordinaire. Tous les tanks jordaniens sont soit explosés, retournés, détruits, soit bloqués par ceux qui ont été détruits. L'avancée de la Jordanie vers le côté ouest de Jérusalem a été bloquée grâce aux Bnei Yeshivot qui ont été mobilisés par le Rav Goren. Jérusalem est toujours là. Certes, on a perdu la partie est de la ville, mais il y aura une Jérusalem juive à la naissance de l'État d'Israël, et c'est grâce au Rav Goren. Une fois que cette situation se termine, une fois que la guerre d'indépendance est terminée, eh bien, il y a un nouveau problème qui règne au sein de l'armée d'Israël. C'est quoi ce nouveau problème qui règne au sein de l'armée d'Israël? Eh bien, il est très simple. Le problème, il est que de plus en plus, il y a des tensions terribles entre la majorité non religieuse et les minorités de soldats religieuses. Ils ne s'entendent plus. À ce moment-là, il y a une yeshivat memshala. David Ben-Gurion demande de faire une yeshivat memshala. Une session extraordinaire. Il faut décider de qu'est-ce qu'on va faire. Et il y a une proposition qui est faite par les rachets à Tzava et qui est entérinée d'ores et déjà par la majorité des membres du gouvernement. La proposition est simple. Mais faisons deux unités. Puisque ça crée des tensions, arrêtons les tensions. Faisons une unité religieuse qui sera gouvernée par des militaires religieux, des commandants religieux. Et on peut même mettre un rabbin à leur tête s'ils veulent, s'ils sont contents. Et une autre unité, une autre armée, l'armée pas religieuse. Ils s'entraîneront pareil, il n'y a pas de problème. Et quand arrivera le moment de grand combat, eh ben, on enverra ceux-là là-bas, et voilà. Alors que tout le monde dans le gouvernement est pour, ça a l'air d'être un bon compromis. Les religieux sont pour. Ils sont très contents. Ils vont pouvoir continuer. Je parle évidemment des religieux, du Mizrahi, tout ça, des gens qui sont dans cette optique de servir dans l'armée et tout ça. À ce moment-là, le Rav Goren se lève et dit « Je crois que vous n'avez pas compris, les amis. Si vous faites ça, je quitte l'armée. » Mais pourquoi, Kvod Arav ? Quel est le problème ? Il dit « Am Israël. » Zéam Echad. Donc, le peuple juif qui est un peuple, il a une seule armée. Il est hors de question qu'il y ait une armée de religieux et une armée de pas religieux. Et Ben Gurion se tourne et lui dit, alors qu'est-ce que tu proposes? Il dit, eh ben, c'est pas compliqué. Toute l'armée, elle sera religieuse. Et là, tout le monde qui commence à regarder, tout le monde se tourne vers Ben Gurion. Et il dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, t'as très bien compris. Toute l'armée, elle devrait être religieuse. Toute l'armée, elle fera Shabbat. Toute l'armée, elle mangera kasher. Là, les mecs, ils sont « Ok, non, ça va pas être possible. » Et il attend pas que quelqu'un reprenne la parole. Et il continue et il regarde Ben-Gurion droit dans les yeux et lui dit « Ata lo chilalta Shabbat kede leakim et amedina atzava lo techalel Shabbat. » Il dit « Toi, tu n'as pas transgressé Shabbat pour déclarer l'indépendance de l'État d'Israël. Vous connaissez toute l'histoire qu'il a fait juste avant Shabbat, le vendredi après-midi. Il dit, si toi, tu n'as pas transgressé Shabbat pour faire l'État d'Israël, l'armée d'Israël ne transgressera pas Shabbat. Et Ben Gurion, il dit, très bien, ben explique-moi comment on va faire. Amène-moi un protocole clair pour comment on va faire. Ben le lendemain matin, il y avait le protocole sur le bureau de Ben Gurion et depuis, nous avons une seule armée, Baruch Hashem. Vous comprenez un petit peu quelle est l'ambiance dans laquelle est le Rav Goren. Et c'est donc tout à fait naturellement qu'en 1967, alors qu'il est toujours le grand rabbin de Tzahal, eh bien en 1967 arrive le moment, arrive la consécration, arrive le moment dont il arrivait toute sa vie. On a parlé tout à l'heure que le Rav Goren avait une vision de Torah qui est une vision étatique. Étatique, ça veut dire qu'on veut ramener le peuple d'Israël à sa dimension nationale, à tous les niveaux. Une armée solide, forte et unie. Mais pour lui, la dimension de cette résurrection étatique passe également par la Torah. Il veut recréer le Sanhédrin. Il veut recréer le Sanhédrin. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, eh bien, il change le nom de famille, de sa famille, de Gorenchik, petit Goren, en Goren tout court. Goren, c'est quoi? Goren, c'est un endroit en cercle dans lequel on va presser les olives. Mais Goren, c'est aussi la façon dont est assis le Sanhedrin, Bechatsi Goren. En d'autres termes, le Rav Goren, même jusqu'à son nom, il a une vision étatique. En 1967, arrive le moment où le Rav Goren devient le plus grand acteur de l'histoire de la libération d'Israël. Je ne vais pas encore parler de Har HaBayit Be'Yadenu. On va le garder pour la fin, celui-là. C'est le kiff. Mais le lendemain de la libération de Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? On connaît tous, voilà, j'ai mis la scène, on a entendu ce film extraordinaire, ces 50 secondes de Har HaBayit Be'Yadenu et le Rav Goren qui fait la bracha. Et j'y reviendrai à la fin de notre étude. Mais qu'est-ce qui se passe le lendemain? Qu'est-ce qui se passe la nuit même? La nuit après le shofar tant attendu. Le Rav Goren est déjà à Kever Rachel. Il a libéré le tombeau de Rachel. Il est donc dans le Gush Etzion. Et il passe la nuit là-bas. Demain, qu'est-ce qui est prévu demain? Tu sais ce qui est prévu demain? Ben, je vais te dire. Demain, c'est prévu que Tzahal arrive à Hebron. J'étais aujourd'hui à Hebron. Là, j'en viens. Ah non, mais complètement, mais son portrait dans la maison, mais obligé. Je te dis, aujourd'hui, j'étais à Hebron. Cette ville, c'est tellement... Ribono shel olam. On a une chance incroyable. Alors, ceux qui habitent à Givat Shmuel, vous avez une chance aussi. Mais, Enmalasot, tu ne me feras pas dire. On a une chance incroyable d'habiter à Jérusalem, ceux qui habitent à Jérusalem. C'est évident. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand j'arrive à Hebron, à chaque fois, ça me fait ça. T'es chez papy et mamie, quoi. T'as vraiment l'impression que t'es chez papy et mamie. Je sais pas, tu te sens bien. Tu te sens bien, c'est chez toi, quoi. C'est chez toi. Mais c'est pas chez toi, genre chez toi. Moi, je vais te dire. C'est quoi? Je te le dis. Je suis... Et au dire de ma femme, beaucoup trop maniaque du rangement et de l'ordre dans ma maison. C'est comme ça, c'est Mayesh. C'est l'armée qui m'a fait tourner la tête. Mais demande à mes parents, quand je vais chez eux, je m'en fiche du rangement, et les chaussures, et les chaussettes, et les machins. Et de mal à la sauce. T'arrives chez tes parents, t'arrives chez papa et maman, tu te sens tellement bien que tu ne ressens pas le poids de la responsabilité de toi t'occuper de la maison. T'es chez papa et maman, encore plus chez papy et mamie. Mais quand j'arrive à Hebron, c'est ça que je ressens. T'es chez papy et mamie. Et donc, le lendemain de la libération de Jérusalem, le projet, c'est d'arriver à Hebron. Le Rav Goren va tout de suite, alors que tous les soldats sont au Gush Etzion, entre Jérusalem et Hebron, eh bien, il dit, à quelle heure on part demain? Je viens avec vous, hein, c'est sûr. Hein, c'est sûr que je viens à Hebron. Je veux être parmi ceux qui vont libérer Hebron. Non, mais t'es un grand malade, toi. Et donc, les responsables, là-bas, ils lui disent, demain, au lever du soleil, on part. Il dit, très bien. Le lendemain matin, tu as compris qu'une heure avant le lever du soleil, le Rav Goren, il est déjà dans sa voiture avec son chauffeur. Et il est chaud patate. Sauf qu'il ne voit personne. Il ne voit pas un soldat. Et là, il se dit, il a dû se passer un truc. Ils ont dû partir avant et ils ont oublié de me prévenir ou ils n'ont pas réussi à me réveiller, je ne sais pas. Donc, il dit à son chauffeur, l'homme aura, on y va. On les récupérera en route. En mal à la saute. Et donc, ils prennent la voiture et ils y vont. Et ils y vont. Et ils vont à Hebron. Il y a quoi ? Une demi-heure de route entre le Gouche Etzion et Hebron. Et plus la voiture avance vers la ville, et plus le chauffeur, il se dit, il y a une douille. Parce que si vraiment Tsahal était parti avant, et on commencerait déjà à voir des soldats, des engins, des voitures, des campements de base. Il n'y a rien. Et quand ils arrivent à Hebron, ils comprennent, à l'entrée de la ville, que Tsahal n'est pas encore là. En fait, ils ne sont pas encore partis du Gouche Etzion. Le Rav Goren était tellement pressé d'y aller que quand il a vu qu'il ne voyait personne, il ne s'est pas dit, peut-être qu'ils ne sont pas encore levés. Le Rav Goren arrive en premier à Hebron. Mais tu n'as pas compris, ce n'est pas qu'il arrive en premier. Genre, et c'est le premier de la troupe. Il n'y a pas de troupe. Il est tout seul. Bon, il y a son chauffeur. Mais son chauffeur, il est dans la voiture, il a fermé la clé. Et le Rav Goren, on est en 1967, donc je te laisse faire le calcul très très rapide de quel âge il a. Il a 49 ans, le bonhomme. Il est là, barbe grisonnante, et à chaque fois qu'il sort de la voiture et qu'il sort avec son arme, il y a un nouveau drapeau blanc qui sort à une autre fenêtre de Hebron. Rabotai, Hebron va être libéré en 67 sans un coup de feu par un seul homme, le Rav Shlomo Goren. C'est lui qui libère Hebron tout seul. Il n'y a pas de Tsahal. C'est lui, Tsahal. Tsahal, c'est moi. Quand il arrive devant la Maharat à Marpella, la caverne de Marpella, il tire. Il tire en l'air pour dire « Hebron, Beyadenu ». Il prend un drapeau de sa voiture et il va lui-même le planter en haut de la Maharat à Marpella. Il est tout seul, t'as pas compris, il n'y a pas d'autres soldats. Tout seul, il libère Hebron. Et il sait qu'il y a des Arabes à l'intérieur de la Mahara. Et il leur dit, ouvrez la porte! Et les mecs, ils sont morts de peur devant le Rav Goren. Et il lui crie, on veut bien, mais on n'a pas la clé! On est enfermé à l'intérieur, on ne peut pas sortir, je te jure! Il tire sur la porte. La porte, c'est quand même de la bonne porte. Et avec son petit fusil, ça marche pas. Il va devoir attendre que finalement, les kohot, les forces de Tsahal arrivent. Et avec une voiture bien blindée et bien avec des forces sous le capot, ils vont accrocher une espèce de corde et truc. Et ils vont réussir à faire s'effondrer les portes. Et il va pouvoir rentrer à Maharat HaMarpella. Vous comprenez qu'il n'a pas prié de Tfilat Shacharit avant de partir de Gouche Etzion parce qu'il s'est dit « Aujourd'hui, je prie chez Abraham Avinu. » Ben, il l'a fait. À ce moment-là, une fois qu'il a fini cette fila, Moshe Dayan arrive. Et il descend, et il voit le Rav Goren et ils disent « On va rentrer ensemble maintenant dans la Mehara. T'es rentré avant moi, maintenant on rentre ensemble. » Il dit « Ok. » Mais vous le savez, à ce moment-là, il y a c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une nouvelle entrée, machin, mais à l'époque, il y avait des escaliers qui menaient à une grande porte et c'était par là qu'on rentrait dans la Mehara. Et ça faisait 700 ans que les Juifs n'avaient pas le droit d'avancer plus haut que la 7e marche des escaliers. Ils étaient interdits d'accès. C'était un moyen de les persécuter, de les bafouer. Les Juifs pouvaient arriver jusqu'à la 7e marche. Depuis les Mamelouks, jusqu'à la guerre des six jours. Le Rav Goren accompagne Moshe Dayan et ils arrivent sur la 7e marche. Et le Rav Goren dit à ce moment-là à Moshe Dayan, cette 7e marche, a été le symbole de l'humiliation juive pendant 700 ans. Tu vas la laisser être encore là demain? Et Moshe Dayan dit, tu as raison, ils vont dynamiter la septième marche. Il n'y aura plus jamais de septième marche. Vous comprenez un petit peu qui c'est le bonhomme? Qui c'est le Rav Goren? Évidemment, en tant que Rav Arashi, en tant que Rav, c'est Rav, pas encore Rav Arashi, mais en tant que grand rabbin de Tzahal, il va faire face également à des questions de halakha absolument incroyables. Tout d'abord, pendant la guerre d'indépendance, des questions par rapport aux lois de Pessah, est-ce qu'on a le droit de manger dans certaines conditions, machin, mais bon, tout ça, ce sont des questions de Pikuach Nefesh. Une des premières choses qu'il va faire, lorsqu'il va être nommé grand rabbin d'Israël, car finalement, il sera nommé grand rabbin d'Israël après sa période de grand rabbin de Tzahal, il va devenir grand rabbin d'Israël. Et l'une des premières choses qu'il va faire, c'est de tout simplement l'attir et agunot, de permettre les femmes qui ont perdu leur mari, qui ont perdu leur mari pendant la guerre, particulièrement pendant la guerre d'indépendance ou pendant la guerre des six jours, eh bien, c'est lui qui va les permettre pour pouvoir se remarier, ainsi de suite. C'est également lui qui va permettre les agunot du sous-marin de Dakar. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. C'est lui qui va trouver le moyen de permettre les agunot. Mais je vous ai dit qu'il est devenu grand rabbin d'Israël. C'est la première fois. C'est la première fois depuis la création de l'État d'Israël qu'il va y avoir des élections pour élire le nouveau grand rabbin d'Israël. Pour ce qui est du grand rabbin séfarade, l'affaire est emballée, pesée. C'est plus ou moins déterminé déjà avant l'élection. Ça sera à Gaon, à Rav Ovadia Yosef. Mais pour le rabbin Ashkenaz, il y a des élections. Maintenant, le Rav Goren est parmi ceux qui vont être éligibles, mais on ne sait pas si c'est lui qui va être élu. En tout cas, tous les rabbins qui attendent le verdict, qui sont éligibles, sont dans les bureaux du grand rabbinat d'Israël, au cas où, finalement, c'est eux qui sont élus. Eh bien, finalement, Rabotai, c'est le Rav Goren, vous l'avez compris, qui est élu, c'est lui qui va être le grand rabbin d'Israël Ashkenaz à côté du Rav Ovadia Yosef, sauf qu'au moment où il est élu et qu'on veut sortir de l'endroit de l'élection machin pour lui annoncer et ben, pour le féliciter, il n'y a pas de Rav Goren. Il n'est pas là. Personne ne sait où il est. Mais où il est? Où est le Rav Goren? Ribono shel olam. Personne ne sait où il est. On ne saura que plus tard qu'en fait, le Rav était parti sur le mont des Oliviers. Pourquoi? Parce qu'il voulait aller demander la permission à son maître, le premier grand rabbin d'Israël, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kouk, la permission. Et il demande à Akadosh Baruch Hu de l'aider à rentrer dans les chaussures de son maître. Il est sur la tombe du Rav Kouk en lui demandant de l'aider, d'intercéder en sa faveur chez Akadosh Baruch Hu, qu'il puisse remplir le rôle que lui a lancé. Non, il ne s'est pas caché du tout. Il est parti demander la permission au Rav Kouk de continuer ce que lui, il a commencé à faire. Rav Shlomo Goren, le lion de notre génération. Comme vous l'avez compris de son curriculum vitae, c'est quelqu'un qui n'avait peur de rien. Ni que le ciel ne lui tombe sur la tête, ni de faire une erreur. Lorsqu'il était possèque, il était possèque, point. Les autres ne sont pas d'accord? C'est-à-dire, un hypossèque. Il a été un des plus grands décisionnaires de notre génération. D'abord, il faut que vous compreniez que c'est un bonhomme quand même qui va écrire près de 20 livres. Mais pas du petit livre. Hein. Par exemple, il va t'écrire des commentaires et des chidushim sur le Rambam. Il va écrire un livre qui va être un commentaire comparé du Talmud Yerushalmi par rapport au Talmud Bavli, du Talmud de Jérusalem par rapport au Talmud de Babylone. Ça va être quelqu'un qui va être le premier à écrire les lois de Tzahal, Ilchot Tzava, les lois de comment on se comporte quand on est à l'armée. C'est quelqu'un qui va écrire Torah ta Medina, c'est-à-dire toute sa vision étatique al pi Torah. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui pensait dans tous les domaines de l'État, donc il voulait créer le Sanhédrin. C'est dans cette optique-là, d'ailleurs, que dans sa jeunesse, il est parti étudier à l'Université hébraïque de Jérusalem. Vous savez ce qu'il est parti étudier là-bas ? Entre deux rabbanoutes, il est parti étudier là-bas la philosophie, le grec et le latin. Pourquoi ? Il a dit, parce que on doit faire le Sanhédrin. Or, dans le Sanhédrin, ne peuvent s'asseoir que des gens qui parlent les langues. Donc, de la même façon qu'à l'époque du Sanhédrin, ils ont bien dû apprendre à parler les langues, eh ben moi aussi, je vais apprendre, comme ça je pourrai enfin servir dans le Sanhédrin. Tu comprends l'idée du bonhomme. Mais le plus grand moment de sa prise de décision à l'Afrique, c'est lorsqu'il va décider, dès qu'il arrive au poste de grand rabbin d'Israël, que le jour de Yom HaAtzmaout, il faut dire le Hallel. Et le soir et le matin. Il va être celui qui va dire, déjà quand il était grand rabbin de Tzahal, il disait qu'il fallait dire le Hallel, mais maintenant il a la force du grand rabbin d'Israël. Et lorsqu'il devient le grand rabbin d'Israël, eh bien, la première chose qu'il va dire dans les protocoles du grand rabbinat d'Israël, il dit, Aniposek, les Maasé, que le Hallel, c'est la reconnaissance de la Géoula, c'est la reconnaissance que Akadosh Baruch Hu a libéré son peuple. Eh bien, Yom HaAtzmaout, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, rassemble tous les critères de qu'est-ce que c'est la Géoula, tel que c'était à Hanouka, tel que c'était en Égypte. Et donc, nous devons de dire le Hallel le soir et le matin. Le matin, de manière évidente, mais le chidouche, c'est qu'il le dit également le soir avec la bracha, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il dit de la même façon qu'on dit le Hallel le soir de Pessah, parce que eh bien, la libération du peuple juif a eu lieu le soir, puisque c'est à minuit que Pharaon nous a libérés. Mais il dit de la même façon, c'est le soir que prend fin à minuit le mandat britannique et que donc prend officiellement place l'État d'Israël. Certes, Ben Gurion a déclaré l'indépendance à 4 heures de l'après-midi, mais dans la déclaration d'indépendance, il dit que cette déclaration ne prendra effet que lorsqu'il y aura la fin du mandat britannique, c'est-à-dire le soir à minuit. Une question ici, alors après lui, qui a annulé ce psak ? Personne ! Personne n'a annulé le psak du Rav Goren. Personne. C'est-à-dire que le psak du Rav Goren est toujours d'actualité. Ce qu'ont fait les rabbanim rachim après, parce qu'il y en a qui étaient frileux par rapport au psak, et que de toute façon, il y en a plein qui n'aimaient pas la façon que le Rav Goren avait de décider, et puis c'est tout, ce que fait d'ailleurs un rabbin, eh bien, les protocoles du grand rabbinat d'Israël vont décréter, après le psak du Rav Goren, que chacun fait comme il veut. C'est-à-dire que tu as un psak du grand rabbinat d'Israël qui est tout simplement d'actualité aujourd'hui, en 2020, de chaque rabbin dans chaque communauté décide de faire comme il veut au niveau du Hallel le soir de Yom HaAtzmaout. Voilà le psak officiel actuel de la rabbanoute. Donc, ceux qui veulent dire le Hallel le soir se fient au Rav Goren, ceux qui ne veulent pas se fient à pas le Rav Goren, à Valmala Asot, que c'est le Rav Goren qui avait raison. Ah, vous allez ici me dire, non, mais le Rav Intel et le Rav Intel et le Rav Intel et le Rav Intel, je m'en fous du Rav Intel. À Rav Goren, il a été posek et il avait raison. Et il était posek d'ailleurs en tant que Mara Deatra, en tant que Rabbin d'Israël. Pourquoi Shrem n'a pas été reconquis en même temps que Hebron ? Si, elle a été reconquis en même temps. C'est en même temps. Non, pas exactement le même jour. Et tout simplement parce que les Kohot, ce n'étaient pas les mêmes dans l'avancée de la guerre de six jours. Eh bien, la conquête de la Samarie, ce n'est pas fait au même moment. C'est fait dans l'avancée vers le Golan. Donc, c'est encore un système différent. Le Rav Goren ne peut pas être et dans le sud et dans le nord au même moment. Donc, oui, la conquête de Shrem a eu lieu pendant aussi la guerre des six jours. Elle a eu lieu le deuxième jour, mais le Rav Goren ne peut pas être et à Jérusalem et à Shrem en même temps. Mais Kitsour, donc la grande psyka du Rav Goren, c'est de reconnaître la grandeur de notre époque et de dire « Zéa Géoula ». Et donc, il est évident qu'on doit le reconnaître en disant le Hallel. Vous savez, le Rav Goren, j'ai dit qu'il était l'élève du Rav Kook. Sa femme a été son pilier, tel qu'il le décrivait lui-même, dans une Torah vraie. C'est comme ça qu'il appelait sa femme, une Torah vraie. Sa femme, la rabbanite Tzviya, n'était autre que la fille du Rav David HaKohen, la fille du Rav Anazir. Donc vous comprenez un petit peu l'ambiance du bonhomme. Son beau-père, c'est le Nazir. Son copain d'études, c'est le Rav Tzvi Yehuda Kook. Son maître numéro 1, c'est Reb Aryeh Levin. Son maître numéro 2, c'est le Rav Kook. Bon, tu as compris un petit peu à qui on a affaire. D'ailleurs, aujourd'hui, le Rav Goren est enterré au Mont des Oliviers, à côté du Rav Kook, du Rav Anazir et du Rav Tzvi Yehuda. C'est un carré comme ça de ces quatre géants-là qui sont enterrés ensemble. C'est ça le Rav Goren. Le Rav Goren, dans la fin de sa vie, son dernier grand travail, sa dernière grande passion, maintenant qu'il a rempli les autres travaux, eh bien, il comprend que c'est l'heure de s'éveiller au Beit HaMikdash. Et donc, eh bien, son grand, grand, grand projet est d'étudier en profondeur le mont du Temple pour savoir exactement où était le Beit HaMikdash, en faire un tracé des dimensions claires, nettes et précises. Et c'est également lui qui va donner cette permission évidente de monter sur le mont du Temple pour conquérir Har HaBayit et faire de cet endroit le mont du Temple qui est entre nos mains. Et c'est ce qui me permet de revenir la veille de la conquête de Hebron qu'on a évoquée tout à l'heure. Il y a évidemment la conquête de Jérusalem, la conquête de la vieille ville, le moment où les soldats rentrent par la porte des lions, arrivent au mont du Temple. Et on connaît tous, je le remets comme ça, vite fait, en fond sonore. Lorsque les soldats disent « Nous passons la porte des lions », et petit à petit, les soldats arrivent dans les ruelles de Jérusalem. Et finalement, ils ne comprennent pas vraiment comment, mais ils arrivent sur le Har HaBayit. Et ils disent Har HaBayit Be'adenu. À ce moment-là, le Rav Goren, je vous montre ici un dessin fantastique. Voilà, je vous montre un petit dessin que vous puissiez voir, parce que je pense que le dessin est encore plus beau que la vérité. Le Rav Goren arrive ici. Vous pouvez voir ici mon dessin. Le Rav Goren arrive au mont du Temple et ensuite il suit les soldats qui arrivent au Kotel avec un Sefer Torah dans la main et le shofar dans l'autre main. Va sonner du shofar, ce shofar qui est Teka Beshofar Gadol le Cherutenu. Le Rav Goren est celui qui va sonner le shofar de la Géoula qu'on a attendu pendant 2000 ans. Je pense que vous avez compris maintenant pourquoi Dieu a choisi que ce soit lui. Ce shofar va retentir éternellement comme étant celui qui montre que ça y est, Am Israël est retourné non seulement sur sa terre, non seulement à retrouver son identité nationale, mais prêt à passer à la dimension du Beit HaMikdash. Alors si je devais conclure sur la personne incroyable que fut le Rav Shlomo Goren, j'ai appelé ce cours en disant « Le Rav Goren ou Shlomo le lion ?»« Waya Gibor Kaari »« Waya Gibor Gadol » Le Rav Avrum Shapira, qui va le succéder au grand rabbin d'Israël, dira de lui « Le Rav Goren, c'est quelqu'un qui a dans sa poche droite le Talmud de Babylone, dans sa poche gauche le Talmud de Jérusalem, mais qui a sur son cœur le lion de Judée. Le Rav Goren, c'est le lion par excellence. Le Rav Goren, c'est Gur Aryeh Yehuda. C'est la bracha que Yaakov va donner à Yehuda. C'est la bracha du Melech Israël. Je vous ai dit, le Rav Goren était une dmout rabbinite dans, à tous les niveaux. Un personnage rabbinique et un géant de la Torah. Avec des épaules, mais d'une largeur incroyable. Mais il était un homme d'État dans sa Torah. Un jour, alors qu'il est, je terminerai par là, grand rabbin d'Israël, eh bien le Rav Goren est en visite diplomatique en Afrique. Et là-bas, en Afrique, il va faire un safari. Bon, la malo. Parmi les visites officielles, il est pris dans un safari. Si je ne me trompe pas, c'était au Kenya. Et à un moment donné, ils arrivent devant l'endroit où il y a les lions. Et là, tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Le Rav Goren, il est descendu de la voiture. Il a ouvert la porte et est descendu de la voiture. Et il a commencé à s'avancer vers les lions. Mais laisse tomber que tout le monde était en stress complet. Et c'est pas une légende d'il y a 1000 ans. Hein. C'est une histoire que lui raconte dans son autobiographie. Il dit, je suis descendu de la voiture et j'ai été voir les lions. Lama, je voulais voir si Behemet Yeshli Yirachamayim. Pourquoi? Parce que moi, je suis un homme. J'ai été créé Betzelem Elohim. Et Akadosh Baruch Hu, il m'a dit que c'est à moi de dominer les animaux. Donc, si je me suis vraiment conformé à l'enseignement d'Akadosh Baruch Hu, et que tout ce que je fais, c'est pour dévoiler les lions de Judée, alors le lion du Kenya ne me fait pas peur. Et donc, il se tient nez à nez avec le lion. Va arriver Kam, va orider ta roche, et il est parti. Le lion était devant lui, il a baissé la tête. Je ne sais pas si c'est en signe de respect, j'en sais rien, je ne parle pas lion. Peut-être que Léa, elle peut nous dire, mais moi, je ne parle pas lion. Et il est parti. Et le lion est parti. Il a compris qu'il y avait le lion et puis il y avait le roi lion. Et il a compris qui il avait en face de lui. Voilà, les amis. Arav Shlomo Goren, un géant parmi les géants. Celui qui a succédé à Moshe, Yoshua, Shmuel, Rabbi Yehuda Hanassi, Arav Shlomo Goren, Reb Shlomo Goren, ou alors le lion de Jérusalem. Alors, comme j'ai dit à Eli, j'ai dit voilà, on a parlé de Reb Shlomo Karlibach, on a parlé maintenant de Rav Shlomo Goren, et oui, vous avez raison, il est temps de mettre maintenant sa photo dans notre maison. Je te parle vraiment, c'est un mec incroyable. On a eu une chance incroyable d'avoir eu des dirigeants comme ça. Mais j'ai dit à Eli, tu sais, si tu veux, on peut ne pas reprendre le livre de Bereshit tout de suite, hein, parce que je lui ai dit, la semaine prochaine, c'est la Iloula du Rav Harlap. La semaine d'après, c'est la Iloula de Rabbi Yehuda Hanassi. La semaine d'après, c'est la Iloula du Rav Tzvi Pessah Frank. Mais Kitsour, on peut y aller loin comme ça avec les géants du peuple juif de nos générations. Ken Yirbu. En tout cas, c'était pour moi un honneur de pouvoir vous parler de ce personnage extraordinaire. Demain soir, c'est Saïdoula, Kavdalet Becheshvan, et chez Niske, de continuer le travail qu'il a lancé, de continuer à reconnaître la grandeur de notre Géoula, de continuer à œuvrer pour la construction du Beth Amikdash, pour que, comme tous, il y a Amod le Goralo Beket Sayamin qui revienne sonner du shofar cette fois. En tant que Nassi à Sanhedrin, de Bet Amikdash, Bimera, Beyamenu. Amen. Et Chazak ou Baruch à tout le monde.
Moi, j'ai deux choses à dire. D'abord, merci beaucoup. Un énorme merci pour ce cours extraordinaire. Et pour les autres, il faut qu'on en parle parce qu'ils ne s'appellent pas Shlomo, les autres.
C'est ça. C'est ça.
donc, je ne sais pas comment on va faire, mais bon, on va en parler. Je vais voir avec le conseil des sages, avec Jacques, avec Léa, et tout ça, on va voir ce qu'on fait. Et c'est la première chose. Et la deuxième, on a un groupe là, hein, pour le Harabaï, donc il faut qu'on se lance.
C'est vrai. Tu sais qu'on a déjà parlé. Je t'attends. Hein. C'est ouais, juste t'attends.
Je sais. Voilà. Il faut transformer les paroles en actes.
Nahon.
Paroles en actes. Voilà. J'ai rien d'autre à dire à part encore merci.
Ben voilà. Chazak ou Baruch.
Merci beaucoup.
De rien, beaucoup.
Merci beaucoup.
Kaldum.